Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Bonjour à toutes et à tous, toujours évidemment énormément de plaisir que de vous retrouver, bon week-end et merci bien d'être là, à la fois sur BFM Business, vous le savez, radio-télé, sur la chaîne Tech & Co, sur YouTube, pour votre rendez-vous de la semaine. C'est De quoi je me mêle, toute l'actu donc de ces derniers jours. Avec en deuxième partie de quoi je me mêle, tout à l'heure, on va remonter le temps. Est-ce que vous vous souvenez, alors là je m'adresse aux plus vieux d'entre vous, de Second Life. C'était un peu les prémices finalement de cet univers en VR et de ce métavers tant chouchouté par Mark Zuckerberg. Eh bien on va vous raconter l'histoire de Second Life, ce sera tout à l'heure avec Christophe Joly qui a ressorti ses archives pour nous refaire vivre ce moment technologique qui a plus de 20 ans quand même, les amis. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez nous suivre, si vous voulez réagir sur Twitter. Merci d'être là et on commence tout de suite par l'actu. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et l'actu cette semaine, c'est avec Anthony Morel, bien sûr, fidèle au poste, quoi qu'il arrive. Bonjour Anthony.
Salut François, salut à tous.
Anthony Morel que vous retrouvez donc sur BFM Business et RMC Story tous les matins. Ouais. Voilà, et puis après, entre midi et deux avec Estelle Denis. Et nous avons aussi Raphaël Bento qui est avec nous. Salut Raphaël.
Salut.
Bento d'ailleurs. Et Raphaël, vous pouvez le lire dans Les Numériques. Excellent site d'actualité tech avec énormément de tests. Bon, alors, on va commenter l'actu de ces derniers jours. Pas mal de choses à dire quand même. Tout à l'heure, on va parler d'intelligence artificielle. On va aussi évoquer de nouveaux services d'autoréparation chez Samsung. Ça, c'est plutôt cool. Voilà. Bon, maintenant, s'il faut avoir un bac pro Samsung de démontage de smartphone Galaxy S22, ça ne va pas être facile.
Si tu es aussi bricoleur que moi, ce n'est pas gagné.
pas gagné. En fait, ton smartphone, tu le transformes en ectoplasme.
Oui, c'est voilà, ça. C'est ça. Mais ça fonctionne encore moins bien qu'avant, en fait.
Il est déstructuré.
Voilà. C'est un iPhone déstructuré, un smartphone déstructuré. Très
c'est
bon.
Pas mal. Mais pour débuter, on va revenir sur le Vision Pro qui, évidemment, l'onde de choc de cette annonce d'actualité de la part d'Apple se propage encore alors que ça fait plus de deux semaines maintenant. Et cette onde de choc, on la doit entre autres à Mark Zuckerberg, Anthony, qui, lui, de son côté, depuis plusieurs années, croit dur comme fer à la VR et à son métavers avec, ouais, on le sait, des milliards, des dizaines de milliards investis. Et il a donné son avis au Vision Pro d'Apple.
Ouais, et il n'est pas très impressionné, visiblement. Ouais. Alors peut-être qu'il fait ça pour se rassurer aussi, tu vois. Ouais, c'est un peu ça. Je l'imaginais en train de regarder la keynote, ouais, et tout ça, en train de dire « Non mais c'est bon ça, mais on le fait déjà. »
Ça se ronger les ongles.
Ouais, c'est ça. Là. Non mais t'imagines quand même niveau de stress quand il devait attendre, parce que tu te dis toujours « Apple, ils vont nous surprendre, ils vont présenter des trucs absolument incroyables, est-ce que ça va être 10 000 fois mieux que notre MetaQuest, etc. » Et alors, est-ce qu'il dit ça pour se rassurer ou pas? En tout cas, il a donné une petite petit speech à ses équipes, en fait, hein, tout simplement, comme il fait régulièrement, pour discuter de l'actualité tech, y compris de ce que font ses concurrents. Et donc, il a dit, en parlant du Vision Pro, alors je le cite, hein, « C'est peut-être l'avenir de l'informatique, mais ça n'est pas celui que je veux. » Et ce qui est intéressant, parce qu'on pourrait se dire, « Ouais, enfin bon, mec, tu fais la même chose, en fait, hein, tu fais des casques de réalité virtuelle, et t'es en train de dire, ah, non, mais Apple, non, c'est pas génial. » En fait, il explique qu'il y a une différence de philosophie entre ce que propose Apple et ce que propose Meta. Il dit, voilà, pendant les démonstrations du Vision Pro, tout ce qu'on a vu, c'est un gars ou une fille tout seul sur son canapé avec un casque complètement isolé du monde, dans une sorte de vision un peu dystopique du monde. En gros, une personne complètement isolée grâce ou à cause de la réalité virtuelle et de la réalité mixte. Et nous, chez Meta, ce qu'on veut faire, c'est l'inverse de ça. C'est le principe du métavers, c'est-à-dire de relier les gens, de leur permettre en fait, d'avoir des expériences, des interactions, d'aller à des concerts ensemble, de se réunir, etc. Ouais. etc. Tu vois, donc en gros, il met en opposition les deux et lui dit, voilà, du coup, on boxe pas dans la même catégorie, on fait pas la même chose. Et puis, il tacle aussi au passage, il dit, oui, puis d'un point de vue technologique, ouais, bon, ils ont pas montré grand-chose d'extraordinaire. Et puis, en plus,
ça coûte hyper cher. Il a pas dit que c'était mauvais.
Je pense
qu'il a même dit un mot gentil.
Oui, en fait, il dit, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que déjà, nous, on veut faire des produits beaucoup plus abordables. Et c'est de fait, c'est vrai. Pour le coup, MetaQuest, c'est $500. Là, on parle de 3005. C'est pas du tout la même chose. Et puis, technologiquement, ils n'ont rien fait que nous n'ayons fait. En gros, c'est ce qu'il a expliqué en substance. Donc peut-être pour se rassurer, pour rassurer ses équipes, c'est une bonne guerre. Enfin voilà, il les a pas taclés non plus trop méchamment.
Et puis en même temps, il a fait l'annonce du MetaQuest 3 quelques jours avant l'annonce d'Apple. Donc forcément, il n'allait pas dire que c'était génial et que tout le monde devait l'acheter. Le casque devrait sortir à l'automne, a priori. Donc voilà,
on aura plus à des 500 dollars.
T'imagines quoi, quelque chose comme ça. En fait, c'est vrai, ils sont vraiment mieux que chez nous, chez Apple. Achetez leur casque, en fait, vraiment, c'est mieux, en fait.
On va jeter notre Quest 3 et puis, bon voilà, on jette l'éponge. Encore bravo, Apple. Mais c'est intéressant. Enfin, je pense que d'un côté, ça doit énormément rassurer Mark Zuckerberg, cette histoire-là, parce qu'il se sentait un peu seul quand même dans cet univers. Hein. Et on sait que la concurrence, quand on lance quand même un nouveau secteur, elle a du bon, parce que ça va expliquer aux gens ce qu'on fait, etc., etc. Et je pense que de la part des yeux d'un Mark Zuckerberg, voir Apple se lancer là-dedans, même s'ils ne font pas la même chose exactement, c'est rassurant. Il se dit, j'ai bien fait quand même. J'ai bien fait d'investir autant et de me lancer là-dedans il y a quelques années.
Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que là, tout ce qu'espère Meta et ceux qui ont investi dans cette idée, alors soit du métavers ou soit plus globalement dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée, se disent « chouette, Apple y va ». Apple a cette force de, quand ils se mettent sur un segment de marché, démocratiser, c'est un grand mot parce que là on a un appareil à 3 500 $, mais peut-être qu'on aura des versions ultérieures qui seront peut-être moins chères éventuellement, mais en tout cas quant à la puissance de feu d'un Apple qui arrive sur un marché, clairement ça crée une brèche et ça fait qu'il y a beaucoup beaucoup de monde qui ne s'y intéressait pas jusque-là et qui s'y intéresse.
Bien sûr.
Je pense que vraiment Meta mise énormément là-dessus.
Évidemment.
Et sur le côté se rassurer, je pense qu'ils ont été aussi rassurés de voir que le casque d'Apple, même s'il est très esthétique, on a dit qu'il avait quand même des limites aujourd'hui technologiques en termes de miniaturisation, c'est-à-dire qu'il a toujours cette petite batterie qu'on doit porter à la taille, etc. Et je pense que ça, c'était aussi une des craintes de Zuckerberg, parce que Zuckerberg a toujours dit, non mais de toute façon, la miniaturisation, le fait d'avoir des casques qui ressemblent à des lunettes, qui puissent vraiment nous projeter dans le métavers de manière, j'allais dire, sans couture et sans qu'on ait besoin de porter quelque chose de volumineux, ça va prendre 5 ans, 10 ans. Si là, Apple était arrivé avec un truc miraculeux, tu vois, très léger...
Mais avec une claque technologique aussi...
Je pense que ça aurait été dur.
Oui, ça rassure aussi Mark Zuckerberg sur plein de points.
Absolument.
Finalement. D'accord, Raphaël, sur tout ça?
Je suis bien d'accord, mais après, c'est vrai qu'on a toujours cette question de l'usage du casque, même si Apple fait les choses bien parfois et ça risque de démocratiser la chose. Je me pose encore un peu des questions là-dessus. Est-ce que vous avez envie de travailler sur un ordinateur 4, 5, 6 heures dans la journée avec un masque de ski sur les yeux alors qu'il fait 28 degrés dans l'appartement? Je me pose encore des questions.
C'est vrai que dit comme ça, ça fout une claque.
Non, mais t'as raison, c'est toute la question. Mais...
Bon, déjà, 4, 6, 8 heures, c'est pas possible parce que t'as 2 heures d'autonomie. Ou alors il faut que tu branches ton truc.
Ce qui limite un peu l'intérêt du truc.
Ouais.
Non, mais c'est ce qu'on disait dans l'émission qu'on a dédiée au Vision Pro, c'est que c'est probablement une V1, comme souvent avec les appareils d'Apple.
Oui, bien sûr.
Les gros technophiles vont l'acheter parce que c'est Apple, parce qu'ils sont fans, etc. Ils vont d'une certaine manière essuyer les plâtres. Et puis dans un an et demi, on aura une vision qui sera un vision ou un produit qui sera miniaturisé, qui sera amélioré et qui peut-être s'adressera à un plus grand public. On l'a vu avec l'Apple Watch. La première Apple Watch, elle n'était vraiment pas extraordinaire. Il s'en est pas vendu beaucoup. Et puis petit à petit, le produit a fait son chemin en fait, et est devenu un produit quasiment mainstream aujourd'hui.
C'est vrai.
Voilà pour le Vision Pro. Alors, juste une petite anecdote liée à tout ça. Vous savez que quand un constructeur sort un nouvel appareil, il faut déposer le nom de cet appareil, la marque. Hein. Et là, le Vision Pro, évidemment, Apple a fait ça dans les règles de l'art. Enfin, pas tout à fait, Anthony.
C'est compliqué parce qu'effectivement, ils n'ont pas dû regarder du côté de la Chine.
Non.
Peut-être que c'était écrit en chinois, alors que c'était compliqué, tu vois. Mais en fait, en Chine, il se trouve que Huawei a un autre produit qui s'appelle le Vision. Et c'est en plus une paire de lunettes de réalité augmentée. Donc c'est un truc qui quand même
qui ressemble un peu
tu vois, c'est compliqué.
Oui, si encore c'était une paire de jumelles ou un truc, tu vois, un peu loin.
C'est ça. Mais là, le Vision, qui est un produit quand même très très proche, donc ça risque de poser problème. Donc qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il va y avoir une bataille juridique, etc.? J'ai discuté avec des gens de chez Huawei qui m'ont dit, en souriant un peu, non, mais s'ils nous font un chèque de quelques milliards, ça devrait passer.
Ça devrait passer, c'est ça.
Alors, ils vont s'entendre, je pense, mais probablement qu'Apple va devoir...
Ça veut dire quoi, Raphaël? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas sortir ce masque-là sous ce nom-là en Chine?
Normalement, c'est ça, mais comme tu disais, souvent, en fait, il y a des accords de licence qui se font entre les constructeurs et c'est, ça a déjà été fait par le passé avec, avec Apple. Ils ont déjà sorti d'autres produits. Je crois que l'iPad était déjà déposé dans certains pays.
Ouais,
et voilà, ce sera sûrement un accord de licence avec un chèque, à moins qu'il y ait bataille juridique, juste si Huawei veut les emmerder. Mais...
iPad, je me demande si c'était pas, entre autres, une marque de tampons de serviettes hygiéniques. Parce que les pads, en anglais, c'est, c'est les serviettes hygiéniques.
C'est serviettes hygiéniques.
Ouais. Ça, peut-être qu'ils n'avaient pas pensé, effectivement. C'est pas le truc. Tu vois,
c'est même iPhone, je crois, qui avait été déposé par un IBM ou je sais plus quoi
avant
Apple. Il y avait une histoire comme ça et Apple avait été obligé de racheter, je dis peut-être IBM, c'est peut-être une bêtise, mais enfin c'était un géant, je crois, de la tech américaine à l'époque, qui avait déposé le nom iPhone.
Je pense que là maintenant tous les produits avec le nom i ont déjà été déposés.
Oui, c'est ça.
Tu vois, soit par Apple ou soit par des petits malins qui se sont dit le i couteau, le i lavabo,
le i i bien sûr,
le i i i,
le plus connu. Bien évidemment. Bon, alors, voilà, ça, c'était pour le Vision Pro. On referme cette parenthèse-là. Pour revenir à l'actualité de ces derniers jours avec Vivatech, on ne va pas revenir sur Vivatech puisque vous l'avez vraiment vécu de l'intérieur, sur tous les canaux du groupe Altice, hein, avec, sur la chaîne Tech & Co, sur BFM Business. Tu y étais, Anthony, moi, j'y étais aussi. Ça a été quand même le théâtre d'annonces intéressantes et notamment concernant l'IA, avec une boîte qu'on connaissais très peu. Alors moi, j'avais entendu parler d'eux, je crois que je les avais reçus d'ailleurs il y a quelques mois de cela, mais la explosion totale d'une boîte qui s'appelle Mistral.ai.
Mistral, alors je ne crois pas que tu les aies reçus.
Enfin, je ne les ai pas reçus.
Ça m'étonnerait. Peut-être, parce que
ou alors, j'ai dû en entendre parler et je dois confondre.
Je vais te dire pourquoi, parce qu'en fait, ils ne répondent à personne. C'est ça le truc, en fait, c'est qu'ils sont extrêmement mystérieux. On parce a essayé de les lancer, mais c'est en fait... Ils sont très très discrets pour l'instant. C'est une boîte qui a... Alors ils ont levé 100 millions, donc ils ont communiqué sur, cet élément-là. Mais même si tu vas sur leur site internet aujourd'hui, c'est trois lignes. Je te les cite, c'est: on est en train d'assembler une équipe de classe mondiale pour développer les meilleurs modèles d'IA générative. On est à Paris. Si vous êtes chercheur ou ingénieur logiciel, contactez-nous. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on a comme information sur cette boîte qui effectivement se veut une sorte de concurrent à ChatGPT, qui a été créé par des tronches, vraiment des tronches de la Silicon Valley. En fait, trois Français qui sont revenus, qui ont fait leurs armes chez Meta, chez DeepMind, la filiale d'intelligence artificielle de Google, qui sortent de Polytechnique, de Normal Sup. Voilà, vraiment des têtes très très bien faites et bien pleines, et qui disent en fait, il faudrait aujourd'hui qu'on ait des champions français, pas seulement qu'on ait des cerveaux français qui bossent dans la Silicon Valley pour ces grandes boîtes, mais qu'on crée, nous, nos champions nationaux. Et c'est un enjeu qui est hyper important. C'est pour ça que je trouve que c'est important de parler de cette entreprise Mistral. On n'a pas encore d'idée très précise de ce qu'ils vont faire. On sait qu'ils vont bosser sur des large language models, donc type ChatGPT, qui serait destiné aux entreprises. Ils disent avec un côté plus responsable que ChatGPT, avec par exemple le fait que les entreprises pourraient avoir un accès permanent à leurs données.
Oui.
ChatGPT, tu sais que l'un des gros problèmes, ce qu'on leur reproche, c'est que en gros, elle siphonne tout ce qu'on lui donne et parfois ça se retrouve dans des conversations. Enfin voilà, il y a un gros problème avec ça. D'ailleurs, il y a plein d'entreprises qui interdisent l'utilisation de ChatGPT.
Ouais.
Donc il y a probablement des trucs à faire avec des IA génératives françaises en langage français. Ça, c'est aussi un point très important pour éviter les biais anglo-saxons. Il faut qu'on ait aussi, c'est un enjeu de soft power également, nos propres intelligences artificielles. Et donc, c'est comme ça, c'est avec des petits gars, des petits Français qui veulent créer ces outils-là, qu'on va avoir ces intelligences artificielles made in France, qui sont un vrai enjeu de souveraineté nationale. C'est hyper important, je trouve.
Bien
c'est
sûr,
un exemple.
Mais évidemment.
On peut aussi parler de
100 millions, c'est ça arrive pas tous les jours.
Alors,
quoi.
C'est pas mal. Après, la question, c'est est-ce que c'est assez ? Puis, je te laisse la parole juste après, mais la question, c'est toujours, tu vois, les ordres de grandeur. C'est-à-dire que 100 millions, c'est bien,
sûr.
Mais en face...
Mais par rapport aux 10 milliards d'OpenAI...
Voilà. C'est ça, c'est toujours pareil. Quoi. C'est quand tu vois les budgets R&D de Facebook, de Microsoft...
Après, nous, on a des talents, on peut faire parfois aussi bien avec beaucoup moins.
On a les cerveaux, on n'a pas les milliards.
Est-ce que les cerveaux
peuvent compenser les milliards ? C'est toute la question.
C'est tout à fait la question.
En tout cas, j'aimerais bien lever 100 millions de dollars avec juste trois lignes sur un site, mais ça, c'est un autre débat. Mais c'est ce que je voulais dire, en fait, c'est que effectivement, là, on pense 100 millions, ça fait une belle somme, mais face aux milliards qui sont investis aux États-Unis, l'Europe a un peu de retard pour le moment.
Ouais. Mais il faut vraiment. Je pense qu'il faut qu'on compense, quoi. C'est ça. On a. Oui, c'était Gilles Babinet qui disait ça sur notre antenne l'autre jour. Donc notre champion digital, je ne sais plus exactement son titre là.
Digital champion.
Digital champion.
C'est mieux.
Franchement, sur une carte de visite, c'est pas mal. Digital champion, c'est pas mal.
Moi, je rêve de ça. Hein.
Je préfère ça.
Tu as deux doigts d'écrire alors que c'est pas vrai.
Oui, c'est ça. C'est pas mal. Il disait que en gros, dans l'IA, dans le monde, tu as 200-250 personnes qui comptent, et sur ces 250, t'en as 80 à 100 sont français. Et donc voilà. On a un énorme atout, mais encore faut-il derrière créer des outils puissants. Je pensais à un deuxième outil qui s'appelle Hugging Chat, que vous pouvez utiliser d'ailleurs, qui a été créé. Alors là, c'est un petit peu différent. Ça a été créé par des Français
à
New York.
Hugging Face, hein, exactement.
Hugging Face. Alors Hugging Face, je crois que c'est le nom de l'entreprise.
C'est le nom de l'entreprise et Hugging Chat,
voilà,
c'est leur service.
Exactement. Ils ont créé un Chat GPT aussi, et avec même chose. En gros, ils se positionnent un peu en opposition avec Chat GPT sur le côté. Opacité, gestion des données personnelles, etc. Tu vois, là l'idée, c'est d'avoir un algorithme où tu puisses, en gros, mettre les mains dans le cambouis, sous le capot, aller voir exactement, complètement open source. Ça aussi, c'est des choses qui permettent de se différencier par rapport aux outils américains et peut-être voilà, d'avoir des beaux outils made in France qui, on l'espère, seront utilisés dans le monde entier. Voilà, qu'on soit pas encore une fois, ouais. comme souvent dans ces lames de fond technologiques, tu vois, entre d'un côté les États-Unis, de l'autre la Chine, tu as la partie de ping-pong et puis nous, on est les ramasseurs de balles, quoi. Tu vois, c'est un peu dommage.
Voilà, donc Mistral.ai qui a levé un peu plus de 100 millions sur du vent. Enfin, cela dit, quand
c'est pas mal.
J'ose même pas la terminer,
c'est pas
celle-là,
mal.
Parce que voilà. Mais j'imagine que derrière, bien sûr, ils ont trouvé des investisseurs parce que ils ont montré des trucs.
Ouais, hein,
on va pas, ils ont pas.
Non, mais évidemment,
levé
si
comme
on dit
ça
sur
100
du
millions,
vent, c'est pas sur du vent. Évidemment.
Donc ça, c'est cool.
Et t'as vu les investisseurs, hein, c'est quand même
c'est
Xavier Niel,
c'est du beau
c'est Eric Schmidt, l'ancien patron de Google.
Ouais, 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 ouais,
donc c'est vraiment des grands noms de la Silicon Valley.
Ils ont déjà quelque chose de structuré,
absolument,
qui a fait waouh, quoi, en quelque sorte.
Exactement.
Dernière chose, on a un talent ici qui, malgré tout, enfin malheureusement, travaille pour Meta,
ouais.
C'est Yann Lequin,
bien sûr,
qui est venu en rockstar aussi à Vivatech. Hein. Il y avait une file d'attente monstrueuse pour accéder en fait à sa keynote, enfin à son entretien en quelque sorte.
Ouais.
C'est vraiment quelqu'un qui compte, hein, dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Ah, c'est clair.
Et mais malheureusement, ben voilà, il travaille pour la concurrence.
On peut pas le blâmer. Hein,
non,
les
non,
salaires,
non.
Si tu veux, tu vois, quand t'as Meta qui t'appelle, enfin je sais pas combien il est payé, mais enfin bon, ça doit être des sommes complètement affolantes, tu vois.
Ouais.
Évidemment que tu es
tenté, qui met de côté, qui cagnote un peu, et puis après il vient en France, il sera
bah oui, c'est peut-être ce qu'il va faire. C'est peut-être ce qu'il va faire.
Yann, s'il te plaît, c'est bon, là, t'es plein.
Non, okay. Mais moi j'aime bien son discours à Yann Lequin parce qu'il est rafraîchissant dans cette période un peu anxiogène autour de tout ce qui touche à l'IA. C'est-à-dire qu'on en parle souvent, c'est l'IA qui va nous voler tous nos emplois, l'IA qui va à un moment se retourner contre l'humain. Et lui a vraiment un discours de démythification par rapport à tout ça, en disant non mais attendez, l'IA, on n'est pas du tout là. L'IA, elle va nous aider à gagner en productivité. Ça
ouais,
va
ouais.
Pas.
Il est, oui, c'est-à-dire qu'en fait, il casse un peu la psychose qu'on peut avoir sur l'IA, un peu comme Luc Julia d'ailleurs.
Exactement.
Qui sont, je dirais, de la même génération, qui sont des vieux routards de l'IA.
Ouais.
Voilà, ça fait des dizaines d'années qu'ils sont là-dedans, hein,
ouais,
ces gens-là. Voilà, pour eux, il n'y a pas de stress particulier à avoir.
Ils peuvent passer pour un peu blasés. C'est vrai,
oui,
quand tu vois leurs posts sur les réseaux sociaux, ça fait des fois un peu genre « j'ai tout vu », »,« non mais attendez, vous n'avez rien compris, vous êtes un peu débile, vous parlez
après,
de l'IA, vous
ne
savez pas ».
Il faut se méfier quand même aussi, parce que sous leur assise et leur, on va dire, légitimité de l'IA, est-ce qu'ils voient tout, en fait ? C'est ça, tu vois ce que je veux dire ?
Ouais. Tu veux dire qu'ils sont trop dans le,
la tête,
dans
le bidon. Ils sont trop dans leur truc et voilà. Et quand on voit ChatGPT, voilà, ça impressionne tout le monde. Et j'imagine que ça impressionne Yann Lequin comme Luc Julia avant que ça arrive.
Je crois que ça ne les impressionne pas tant que ça, en fait. Parce qu'ils disent, c'est des outils qui existaient tels quels depuis des années dans les laboratoires de recherche. Ce qui est impressionnant, c'est le fait d'avoir lancé un produit que les gens aient envie d'utiliser. Et donc, pour le plus grand monde, effectivement, il y a cet effet waouh. Mais pour les chercheurs en intelligence artificielle, en fait, c'est des outils qui existaient déjà dans les labos depuis longtemps. Et c'est ce qu'il explique, c'est que finalement, rien de nouveau sous le soleil. Alors, c'est vrai que vu du point de vue d'un utilisateur lambda, ça peut sembler être très blasé et très « oh là là, c'est bon, ce gars, il a déjà tout vu ». Mais
je sais pas si vous avez...
pense qu'il est sincère de ce point de vue-là.
Pour terminer avec Yann Lequin, il est venu à Vivatech pour annoncer un truc quand même. Hein.
Oui.
Une nouvelle IA, encore plus mieux meilleur top que ChatGPT.
Qui ringardiserait ChatGPT, qui s'appelle GPA, et qui se rapprocherait un petit peu plus d'une IA générale, comme on dit. C'est-à-dire, en gros, c'est une IA qui serait basée sur le fonctionnement du cerveau, qui imiterait le fonctionnement du cerveau et donc qui aurait une intelligence qui analyserait des images, qui aurait une intelligence contextuelle et qui ne se contenterait pas comme ChatGPT de piocher dans une base de données et de régurgiter en synthétisant et en remettant en forme. Bon, il faudra voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que sur le papier, cette promesse, elle est quand même assez vertigineuse. Ouais,
on n'a pas de date, on ne sait pas quand est-ce que non. ça va arriver, enfin, on ne sait rien. Quoi.
Non, je crois que ce sera accessible en open source pour les chercheurs, si je ne dis pas de bêtises, ouais. dans un premier temps. Ça va être intéressant quand même.
Ouais, et puis Yann Lequin, qu'on aimerait bien avoir sur le plateau de l'une de nos émissions. hein, alors, c'est quelqu'un de très occupé, mais... Voilà, si vous le connaissez,
on aimrait bien l'avoir. Si vous êtes breton, parce qu'il est breton.
Il est breton ?
Oui, bien sûr. Donc, bon. La mafia bretonne, moi, je
bah, en plus, les Corses et les Bretons, on s'entend bien. Toi, t'es un peu breton.
Je suis nantais, donc je suis breton.
Toi, t'es d'où,
Moi, je suis un produit du terroir parisien.
Bon, on s'en fout, alors. Ça ne nous intéresse pas. C'est vrai que la Corse et les Bretons, en général, s'entendent bien.
Bien sûr, bien sûr.
Yann, tu serais le bienvenu pour nous expliquer un petit peu ta vision de l'intelligence artificielle.
On ferait une émission spéciale, je pense, s'il vient.
Mais même plusieurs,
même
je
plusieurs,
pense. Évidemment. Plusieurs, voilà. Ça, c'est pour l'IA. Alors, pour rester dans ce domaine-là, il y a aussi une pour revenir à cette psychose que j'évoquais tout à l'heure, il y a des études qui commencent à fleurir à droite à gauche et qui disent, attention, l'IA, ça va être un tsunami. Ouais. Un tsunami qui va déferler dans tous les pans de la société et qui va avoir des impacts sur l'emploi.
Absolument.
On est d'accord. Et alors bon, il faut toujours se méfier de ces études parce que il y en a une qui va jusqu'en 2040. Alors on a du mal à imaginer ce qui va se passer dans trois mois.
Et d'ailleurs, c'est marrant quand tu ressors les études de 2010 qui nous parlaient déjà d'intelligence artificielle et qui disaient en gros que tout serait automatisé d'ici 2025. Tu vois, et on y est quasiment. Oui, t'as raison. Il faut carrément les prendre avec. A grain of salt, comme disent les Américains. Mais cela dit, il y a des choses assez intéressantes sur les tendances. Quoi. Tu l'as vu, non, cette étude du Boston Consulting Group
C'était 4 Français sur 10 qui ont peur de que leur emploi se fasse remplacer à terme.
Exactement.
Mais en même temps, il y a peut-être quand même quelques métiers qui vont changer profondément, je pense, et ça risque d'arriver assez vite. Alors, je pense qu'il ne faut pas non plus être dans la parano et que tout va être remplacé très rapidement. Mais on a vu, dernièrement, on a vu quoi ? Une présentatrice au Koweït qui est générée par une IA. Il y a quelques semaines à peine, une présentatrice météo aussi en Suisse qui est aussi générée par une IA. Donc François, attention, peut-être que tu vas devoir changer de boulot dans pas longtemps.
Je crois qu'il fallait que je change de sexe. Tu parlais de présentatrice, je me suis dit là, les gars, on va avoir du boulot. Bah,
peut-être
quand même,
les deux. Écoute, voilà.
Je vois qu'une petite perruque,
mais oui.
Je me rase.
Ouais, c'est bien.
Ok,
ça peut être sympa.
Ça peut le faire. Hein.
Françoise Lia.
On avait qu'est-ce qu'on a vu aussi, IBM il y a quelques semaines à peine qui avait annoncé aussi que 30% des emplois dans la boîte de liés à l'administratif aux ressources humaines n'allaient pas être remplacés en interne et qui seraient à terme gérés par de l'IA, merci. On a aussi quelque chose à laquelle j'aurais jamais pensé. Levis a remplacé, enfin a fait un partenariat avec une entreprise spécialisée en IA pour générer des mannequins sur son site. Donc, vous savez, quand vous voulez acheter un jean ou des vêtements, vous voyez des personnes qui sont habillées avec des fringues. Ouais. Eh bien, Levis, maintenant, va afficher des mannequins générés par IA sous couvert de diversité et d'inclusivité pour avoir des personnes de tous les sexes, toutes les ethnies, etc. Finalement, je pense que c'est surtout pour faire un peu des économies et de ne pas avoir à payer des vrais mannequins, des photographes, etc. Ça arrive et ça va être...
D'un coup, tu fais un strike. Hein. Ouais. Tu ne payes plus de mannequins, tu ne payes plus de photographes.
Ah ouais.
Alors bon, tu dois payer une solution logicielle, bien sûr, qui doit coûter de l'argent. Mais,
mais c'est vrai. Mais tu as raison.
Tu fais des économies incroyables.
Et
là, c'est Levis, mais demain, ça sera tout le monde.
Bien sûr, bien sûr. Bah, d'autres exemples, c'est par exemple dans la pub, Martini qui avait lancé une campagne de pub générée par l'intelligence artificielle avec Midjourney, où en 30 secondes, tu as des visuels, des affiches en 4x3, là où il aurait fallu des semaines avec un directeur artistique,
et des budgets, des réunions
interminables, etc.
Non, c'est
vrai. Donc là, ouais, forcément. Après, sur le côté, par exemple, pour les journalistes, alors, c'est pas pour défendre notre profession, hein, qui ne sera pas plus épargné que les autres de toute façon, mais je pense que l'humain aura toujours une valeur ajoutée sur la machine. C'est-à-dire que, tu vois, je ne suis pas certain que les gens se pressent pour regarder des débats animé par des intelligences artificielles, tu vois. De la même manière que moi, je suis
ça pourrait être drôle quand
ça. Peut-être qu'il y aura des trucs truc marrant, cela dit. Mais de la même manière que pour les échecs, tu vois, l'IA a transformé les échecs, évidemment. Aujourd'hui, un humain ne peut pas battre un ordinateur. Même Magnus Carlsen, le champion du monde, le meilleur joueur de tous les temps, enfin, on peut en discuter, ne pourra plus jamais battre un ordinateur. C'est sûr et certain. Et sur Internet, tu as des parties ordinateur contre ordinateur. Tu as AlphaZero contre Stockfish, tu vois, les logiciels les plus puissants. Sauf que ces parties-là, personne ne les regarde, ça ne les intéresse pas. Alors que les gens, ils veulent voir Magnus Carlsen contre Alireza Firouzja, des batailles humaines. L'imperfection de l'humain, c'est aussi un truc qu'on a envie de voir. Tu vois, c'est aussi ça que tu as envie de voir comme spectacle. La machine, dans toute sa perfection, ce n'est pas forcément quelque chose de fascinant à observer, en réalité.
Oui, et puis là, enfin, quand tu vois deux ténors, par exemple, des échecs qui s'affrontent, tu décèles chez eux un vent de panique, un stress, parce qu'ils sont en train de perdre, etc. Enfin, il y a tout un truc que tu racontes.
Exactement.
Et voilà.
La machine, elle trouve juste le coup parfait, puis un autre coup parfait, puis un autre coup parfait, puis un autre coup parfait.
Et puis après, il y en a un qui perd, un des deux qui perd, et puis voilà. Et puis, c'est pas grave, hein, ça reboot et c'est réglé.
C'est exactement ça. Donc, et de la même manière que pour l'art, parce qu'on parle souvent des œuvres générées par Midjourney, Dali, etc., les études montrent que, en fait, alors, c'est vrai que quand tu le dis pas aux humains, on s'en rend pas compte, mais à partir du moment où tu sais qu'une œuvre a été générée par une IA, tu lui attribues moins de valeur, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire, tu te dis, ah ouais, bon, c'est un truc de l'IA, je préfère celle-là qui a été faite par un humain.
C'est après, on est au tout début de l'histoire.
Oui,
tu as
raison.
On ne sait pas trop ce qui va se passer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu comme ça. Dans l'actu aussi, on va complètement changer de sujet. Vous savez qu'il y a cette volonté de la part des pouvoirs publics de nous faire conserver notre smartphone le plus longtemps possible. Alors, on nous incite à acheter des smartphones reconditionnés, à les réparer dès qu'ils ont un petit souci, que ce soit la batterie, l'écran, etc. etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une prise de conscience de la part des marques, Anthony, sur ce sujet. Apple a lancé l'année dernière une espèce d'usine à gaz qui vous permet de réparer chez vous votre smartphone, mais quand vous voyez ce que ça représente, il faut un appartement de 200 mètres carrés pour installer tout l'atelier.
Ouais.
C'est drôle d'ailleurs, cette grande malle-là. Moi, je trouve que c'est presque un pied de nez de la part d'Apple. Vous voulez nous obliger à sortir un kit de réparation, mais vous allez voir, vous allez être
c'est
servi.
Un peu ça. Oui, parce qu'on rappelle, tu reçois une grosse valise qui pèse je ne sais plus combien, 30 kilos, ouais, 35 avec
kilos,
tout le kit de réparation, tu dois payer des cautions pas possibles, etc.
Bien sûr.
Mais je pense que c'est ça, c'est-à-dire que il y a beaucoup de communication en fait dans ces annonces, que ce soit Apple ou les autres marques, parce que tout le monde est en train de suivre, en train de dire voilà, mais non, changement de communication, parce que ils nous ont dit pendant des années, surtout touchez pas à votre téléphone, donnez ça à des réparateurs agréés ou dans nos magasins et on vous les répare, etc. Maintenant c'est non, mais tu peux le faire toi-même, tout le monde est bricoleur, suis nos tutos sur internet, parce que c'est ça le principe, c'est que tu vas pouvoir acheter des petits outils, acheter la pièce de rechange, regarder des tutos sur internet et puis faire la manipulation toi-même. Bon courage, si t'es MacGyver, ok, si t'es Anthony Morel, jamais, enfin, je te le dis tout de suite. Moi je vois les vidéos des gens qui sont en train de faire des trucs, des soudures et des machins, jamais je ne fais ça, c'est très très clair. Donc je suis pas convaincu du tout, si tu veux, je pense qu'ils se donnent bonne conscience, que sur le papier c'est très bien de dire regardez, vous pouvez le réparer vous-même, je pense qu'il y a à peu près 0,001% des gens qui vont le faire.
C'est ça, qu'est-ce que t'en penses toi?
Alors,
Raphaël,
je suis d'accord, je pense qu'il y a une bonne partie de de la part des marques. Alors là, on va parler de Samsung qui vient de sortir son kit de réparation en Europe. Mais c'est pas si compliqué que ça non plus. Franchement, quand tu regardes les tutos, alors ça dépend ce que tu veux changer comme pièce, mais il y a des trucs qui sont très très faciles.
Toi, t'as déjà démonté des smartphones tout de suite.
T'es plus bricoleur que moi, je pense, franchement.
Smartphone, ordinateur.
Il a son bac iFixit. Non, mais c'est ça. Non, mais effectivement, après, quand t'as les mains dans le cambouis et tout, je peux comprendre ton point de vue. Tu as l'habitude de démonter ces petits appareils.
Ouais.
Ça doit te plaire d'ailleurs, j'imagine.
Bon, j'aime bien, c'est rigolo, mais mais vraiment, on peut se dire, ça va être ultra compliqué. Et tout. Alors, honnêtement, un smartphone, c'est plus compliqué qu'un ordinateur. Mais aujourd'hui, il y a des projets comme il y a alors le Fairphone qui a fait beaucoup parler de lui, qui est un projet de smartphone modulaire et réparable. Il y a aussi Framework qui fait beaucoup de bruit depuis un ou deux ans du côté ordinateur. Et là, tout est, c'est des petits clips, il y a quelques vis à enlever, mais il y a très peu de fiches.
Mais là, c'est fait exprès là. Pour le coup.
C'est vrai que là, c'est étudié pour. Hein. Ouais. Alors, c'est vrai que là, quand on dit, je vais devoir réparer mon Samsung, il faut s'y prendre un peu plus, faut faire gaffe, quoi, parce que tu débranches la mauvaise fiche, tu casses tout.
C'est ça.
Mais
ce qui est dommage, tu vois.
Ce qui est quand même,
il est encore plus cassé qu'avant, c'est dommage.
Vous pouvez me le rembourser, Apple?
Non, c'est vous qui l'avez bidouillé. Hein,
en revanche, on vous fait une remise de 50 euros sur le prochain que vous allez acheter.
Ça, c'est sympa.
Qui est à 1400 euros.
Voilà, donc 1350, vous faites une super affaire quand même.
Mais je trouve l'initiative pas mal, et sur certaines pièces, c'est facile de changer une batterie, honnêtement, c'est assez facile. Et du coup, Samsung lance son kit. Alors, le petit kit boutique coûte une trentaine d'euros. ce qui est quand même assez cher, hein, parce qu'on trouve des kits de réparation pour une dizaine d'euros sur Internet, mais bon. Et puis, ils lancent donc des petits tutos, et puis les pièces sont disponibles. Ouais. Donc, il y a quand même une question un peu de durabilité qui est quand même là, qui est intéressante. Ouais. Mais effectivement, est-ce que les gens vont se motiver à aller réparer leurs trucs à la maison ?
Et alors, Samsung sort quoi, en fait ? La même chose ?
Alors, je vais te dire exactement, pour ceux que ça intéresse, les pièces que tu peux remplacer, c'est écran, vitre arrière, les ports de charge sur les S20, S21, S22, et pour les ordinateurs, les Galaxy Book Pro, c'est la dalle, la batterie, le pavé tactile, la touche d'alimentation et les supports en caoutchouc. Donc voilà ce que tu peux changer, sachant que c'est pas donné non plus, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire oui, mais alors à ce moment-là, ça va me coûter beaucoup beaucoup moins cher que de passer par un réparateur agréé. Tu vois, par exemple, pour changer l'écran d'un Galaxy S22, c'est autour de 150 euros. Plus le kit outil.
Si tu le fais toi,
plus le kit outil, franchement, tu vas chez un réparateur agréé, ça te coûtera pas beaucoup plus cher que ça.
Ouais, c'est une des problématiques.
Quoi, donc c'est voilà. Ouais,
c'est même pas motivant. En
bah,
fait.
Voilà, parce que tu pourrais te
sauf
dire
si
bon,
t'es
bah,
vraiment comme Raphaël, tu démontes des téléphones
oui,
toute la journée.
Oui, le do it yourself, le do it yourself, c'est intéressant si vraiment ça te permet de faire des économies.
Évidemment.
Quoi. Sinon, sinon personne ne va le faire. Donc c'est pour ça. Moi, je pense qu'ils le font parce qu'effectivement, il y a cette tendance dans la population générale à on veut des smartphones qui durent plus longtemps, etc. Donc ça répond quand même à une demande du consommateur, ça répond aussi à une demande du législateur, hein, que ce soit aux États-Unis ou en France, ça pousse pour le droit à la réparabilité, l'administration Biden aux États-Unis pousse pour ça, en France aussi on a les petites étiquettes maintenant voilà. avec la réparabilité, etc.
C'est une
donc
nécessité.
On voit bien, voilà, c'est dans l'air du temps, ouais. Donc ils y vont tous et c'est logique et ça va plutôt dans le bon sens. Ouais. Après, bon, je ne suis pas convaincu que beaucoup, beaucoup de gens, en réalité, s'emparent de ces outils.
Alors, Samsung s'y met, avec, tu l'as dit, Galaxy S20, 21, 22. Pas les pliants, hein, quand même, ils n'exagèrent pas.
Non, ça, je pense que même les réparateurs agréés, ils doivent bien galérer, mais...
Tu m'étonnes.
Même t'imagines les un Samsung, réparateur agréé, tu dis, ben voilà, je viens avec mon Fold, qui est donc le smartphone pliant, vous connaissez. Non, vous ne voulez pas le réparer.
Non. Okay. Non.
Qu'est-ce que je fais? Je le mets à la poubelle direct.
Oui, okay. C'est ça. Vous achetez le 5 après. Ouais. C'est ça. Vous pouvez... Le prochain sort bientôt.
Après, il faut voir si on économise quand même la main-d'œuvre, si... En boutique, ça vous coûte, je ne sais pas, 50 euros de main-d'œuvre, plus le prix de l'écran. Bon, là, vous allez peut-être économiser 50 euros. Bon, c'est toujours ça de prix, mais c'est vrai que tu disais que les écrans sont à 150 euros, mais ça peut monter sur le Ultra à 300, plus de 300 euros.
Oui, parce que c'est vraiment une pièce très, très, ouais. Très qualitative, en fait.
C'est ça. Ouais, c'est vrai.
Pour terminer, on va parler de Google Photos, que vous utilisez peut-être. Franchement, moi, j'utilise Google Photos. Je vais vous dire pourquoi, parce que je trouve que c'est l'un des meilleurs systèmes de stockage de photos dans le cloud. Voilà. Alors souvent on critique Google en disant ben voilà, évidemment si c'est gratuit c'est toi le produit. Moi je paye parce que en fait il faut tu payes pour avoir un stockage, une capacité de stockage.
Ouais, sinon t'es vite.
Mais l'IA, ouais. Ça fait des années que moi je suis bluffé, tu vois. Tu tapes coucher de soleil, il va te sortir toutes tes photos de coucher de soleil. Tu tapes je sais pas moi le prénom de ta cousine, il va détecter parce qu'il a préalablement détecté tous les trucs. C'est vraiment incroyable. Et ça fait des années. Hein,
ouais, je suis d'accord. Le côté moteur de recherche est très spectaculaire.
Voilà. Et Google Photos vient d'annoncer, enfin, je ne sais même pas s'ils ont annoncé, ils l'ont annoncé en fait, une nouvelle fonctionnalité, ou en tout cas quelqu'un a détecté une nouvelle fonctionnalité.
Exactement. Et c'est la Alors, je ne sais pas comment dire, du coup. C'est embêtant. On a la reconnaissance faciale.
La reconnaissance dorsale.
Oui, c'est ça. C'est en fait la reconnaissance faciale, mais de dos.
C'est la reconnaissance nucale.
La reconnaissance nucale, c'est pas mal. On garde. C'est-à-dire qu'en gros, la reconnaissance faciale fonctionne même si tu es de dos. Voilà, c'est une nouvelle fonctionnalité. Alors, c'est assez étonnant. Alors, quand on dit reconnaissance faciale, en fait, ce n'est pas de la reconnaissance de la boîte crânienne. En fait, c'est qu'il va prendre une image de ta tête et de ta silhouette et qu'il va, en fait, l'agréger avec plein d'autres métadonnées dont il dispose.
Voilà, et la forme de ton crâne, peut-être tes cheveux, tes oreilles.
Non, c'est même pas ça. Ça va être plutôt, si tu as pris d'autres photos au même moment, au même endroit, les vêtements que tu portes, etc. Ouais. Et en fonction de tout ça, il va faire, si tu veux...
Un comparatif.
Exactement. Il va dire, bah si, là, c'est forcément c'est François, il a la même chemise.
Ouais,
là,
sûr.
Ok, il est de dos, mais c'est la même personne. Bim, hop, t'es reconnu. Et donc, voilà. On pourrait... Mais c'est intéressant de voir que ces systèmes de reconnaissance faciale, ils sont de plus en plus efficaces de toute façon. C'est-à-dire qu'on peut te reconnaître maintenant que tu sois visage nu, si tu as une barbe, si tu as des lunettes de soleil, si tu as changé de coiffure, si tu as une photo qui a été prise de toi il y a 20 ans ou 30 ans. en fait, on va être capable de te détecter. Il y avait aussi la détection du visage, y compris quand tu portes un masque. Tu sais, pendant le Covid, ils avaient fait ce truc-là pour déverrouiller les téléphones, ou même avec un masque chirurgical, on est quand même capable, à partir des yeux et du haut de ton visage, de te détecter. Ça devient quand même assez flippant. Hein. La reconnaissance faciale, c'est quelle que soit la position, quelle que soit la façon dont tu essaies de te cacher, on peut te retrouver d'une certaine manière.
Google Photos.
Mais moi, je ne l'utilise pas, mais je sais que j'ai regardé un peu comment ça fonctionne et tout. C'est vrai que c'est assez incroyable, hein, le fait de pouvoir retrouver n'importe qui, n'importe quand, en quelques clics, c'est assez fou.
C'est un outil assez génial.
Ouais, c'est génial. Et franchement, ça marche très, très bien. Ils ont été malins parce que pendant des années, tu avais un stockage illimité de photos. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et puis, il y a 2-3 ans, ils ont dit, c'est fini la fiesta, les gars. Oui. Maintenant, dès que vous dépassez telle capacité, il faut payer. À noter, tiens, j'ai dit, mais je le répète parce que j'ai eu pas mal de questions là-dessus. Je ne fais pas de la pub pour Amazon, mais si on est abonné à Amazon Prime, vous avez dans tout le bouquet de services offerts le stockage illimité de toutes vos photos sans compression.
C'est pas mal.
Enfin, peu de monde le sait. Ouais. Alors, c'est moins poussé que Google. Il y a de l'IA, mais ça marche moins bien. L'appli voilà, c'est pas au niveau de Google, mais on a Prime Vidéo, enfin si on a l'abonnement Prime global et qu'on a beaucoup de photos à stocker, c'est illimité et c'est surtout pas recompressé. Donc tu te retrouves avec la même qualité de photo originale. Voilà pour l'actu, pas mal de choses quand même cette semaine. Et c'était un vrai plaisir que de commenter tout cela avec vous, messieurs. Merci Raphaël Benteo.
Ben merci à vous pour
les numériques. Tu fais des petits tutos, des montages de smartphone de temps en temps,
pas ? J'en fais pas trop. Alors j'ai fait une émission spéciale réparabilité il y a quelques jours là.
Ah ben voilà.
En direct sur Twitch.
Tu sais quoi,
on va regarder.
On va aller voir. Parce que je pense qu'avec avec Anthony, d'ici la fin de l'année, notre défi c'est de peut-être démonter un smartphone.
Écoute, c'est pas mal comme défi, je trouve.
Je pense qu'il faut qu'on prenne un smartphone pas trop cher, histoire de pas trop pleurer si on n'arrive pas à
le réparer. C'est l'avantage de Samsung, quoi, c'est que tu peux prendre. Remarque, c'est que sur les Galaxy S.
Non, donc ça coûte bonbon. Hein,
mais peut-être qu'ils vont étendre ça à leur milieu et entrée de gamme, tu vois.
Quoi qu'on peut commencer par un Fairphone, puisqu'il est fait pour ça.
C'est plus facile.
C'est plus facile. Ouais, puis après, on montera en gamme, etc. etc. Merci Raphaël, merci Anthony.
Merci.
Merci à tous les deux pour cette première partie de Quoi je me mêle et le club de la presse IT. Second Life.
Oh là là.
Quelle histoire ce truc, vous vous en souvenez ?
L'ancêtre
du métavers. Pas né à l'époque.
Ouais. J'étais né, mais j'étais petit.
Il est tout petit. Ouais. Nous, on l'a un peu connu.
Mais bien sûr. C'est vraiment l'ancêtre du métavers. Vraiment, il y avait cette notion d'univers persistant, où tu pouvais vivre une deuxième vie parallèle, où tu pouvais créer ton business, gagner de l'argent.
Enfin, tu avais deux images par seconde quand tu te baladais sur le truc. Oui, parce que tu avais ton modem 56K.
Bien sûr.
Tu n'avais pas le temps de charger les décors.
C'était pas pire que les premières images du métavers de Zuckerberg.
C'est plutôt mieux même.
Et donc, on va revenir sur l'histoire de Second Life dans un instant avec Christophe Joly qui a ouvert ses encyclopédies. Merci, vous restez avec nous pour la deuxième partie de Quoi je me mêle.
De Quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De Quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà, deuxième partie de ce De Quoi je me mêle et j'accueille avec beaucoup de plaisir Christophe Joly. Salut Christophe.
Salut François.
L'un des historiques de Quoi je me mêle. Et quand on est historique de Quoi je me mêle, qu'est-ce qu'on fait ? On parle de l'histoire de la tech. C'est logique.
C'est ça, parfaitement logique.
La boucle est bouclée.
C'est bien résumé, je trouve.
Et après l'iPad, après...
le premier smartphone, le baladeur MP3.
Tout ça, la PlayStation aussi. On va se plonger au cœur de l'année 2003, puisqu'il y a 20 ans, donc, pile, naissait en fait un concept qui, à l'époque, nous avait bluffé. Il s'agit, parce que ça existe toujours, de Second Life.
Ouais, Second Life. C'était le 23 juin 2003, précisément.
23 juin 2003, donc on y est là. Ouais. On est pile poil jour pour jour dans, dans la date.
2003, c'est l'année du lancement de l'iTunes Music Store. Ouais. C'est le lancement de Windows Mobile et du Nokia N-Gage.
Est-ce
que tu te rappelles du Nokia N-Gage ?
Mais bien sûr que je m'en souviens. J'étais à la présentation presse à l'époque.
Cette console téléphone juste incroyable.
Un truc incroyable qui a été un
bide absolu.
Absolu. Voilà,
tout petit écran. Et surtout qu'il fallait... je l'avais testé à l'époque. Et pour téléphoner, il fallait mettre comme ça, sur l'oreille. Donc, on était un peu ridicule. Moi, j'avais envie de dire, non, mais je suis journaliste et je le teste. Ça n'est pas mon téléphone. Et ouais, c'était un bide.
Alors, il disait qu'à l'époque, tu pouvais brancher un kit Python, etc. pour passer des coups de fil.
Mais non, ça n'a pas marché du tout. Et maintenant, quand on sait... Alors, ils ont le nez creux, parce qu'aujourd'hui, on joue beaucoup avec nos téléphones.
Ouais.
Mais ils ont une petite longueur d'avance. Ils sont arrivés trop tôt.
C'était en 2003, c'était il y a 20 ans.
C'était il y a 20 ans. Alors, le métaverse, parce qu'on parle de ça quand on parle de Second Life, est une notion inconnu en 2003, si ce n'est que le terme remonte à 1992 dans un roman de Neil Stephenson qui s'appelle Snow Crash. Donc le terme est assez ancien malgré tout, et il décrivait dans son roman l'univers dont on parle là. Mais est-ce que tu sais quand est-ce qu'il est entré dans le dictionnaire, dans le petit Robert, le terme métaverse ?
Le terme métaverse, il y a longtemps ? Non, je sais pas. Je dirais l'année dernière.
Eh bien voilà, c'est cette année précisément, donc c'était proche du but. Et la définition qui en est donnée, c'est un anglicisme qui qualifie un univers virtuel tridimensionnel, persistant, offrant à ses utilisateurs représentés par des avatars une expérience interactive et immersive. Donc la définition est longue, mais finalement c'est un terme relativement récent qui est désormais entré dans le langage courant. Alors si ce n'est qu'à l'époque, en 2003, on pouvait avoir déjà des vies parallèles. Oui. Est-ce que tu te rappelles des bimondiens ?
Mais bien sûr, je m'en souviens. Évidemment.
Tu étais un bimondien peut-être ?
Je pense que j'avais testé ce truc-là, qui était à l'initiative de Canal+.
C'est ça. Et de Cryo Interactive, ça s'appelait Le Deuxième Monde. Ça a ouvert en 1997, ça a fermé en février 2002, donc juste avant le lancement de Second Life. Et là encore,
ils étaient vraiment avant-gardistes.
Complètement. Alors ça n'a pas duré très longtemps.
C'était à l'époque où Canal était vraiment, faisait beaucoup de choses, était présent sur tout le monde interactif. Ils sortaient des CD interactifs, des trucs comme ça. Et c'était sous l'égide de Alain Lodiberder, qui était quelqu'un de génial.
On se souvient effectivement. Alors à l'époque, il s'agissait d'évoluer dans un Paris en 3D, avec une communauté virtuelle et une image de Second Life. Et il y a eu aussi les Sims. Je pense que
tu t'en souviens
également.
Évidemment.
Il s'agissait également d'un jeu, là, pour le coup, où il s'agissait de ne rien faire, si ce n'est de simuler une vie parallèle.
Tu as raison, les Sims, finalement, c'est l'ancêtre du métavers. Hein.
Bah ouais, c'est un peu ça. Alors à l'époque, ça s'achetait avec des CD-ROM.
Oui.
Un objet dont on parlera peut-être dans un autre numéro de Nostalgique. Ça s'est vendu quand même des centaines de millions d'exemplaires. Une version en ligne des Sims a été lancée également de 2002 à 2008. Et les Sims existent toujours. Les Sims 4 est gratuit depuis un peu plus d'un an.
Oui.
Un peu moins d'un an, plutôt depuis octobre dernier. Et les Sims 5 sont attendus avec une version multijoueur.
Oui, et ça va être un carton, c'est sûr.
Voilà.
C'est certain.
Donc ça marche toujours, les Sims ne sont pas morts.
Oui.
Alors, Second Life, à quoi ça sert ? Tu l'as dit en quelques mots. C'est un mix de jeux et de réseaux sociaux, plus de jeux que de réseaux sociaux d'ailleurs. Donc, t'évolues en 3D. Mm-hmm. Tu crées ton avatar, tu peux le customiser, choisir des peaux, des vêtements, une morphologie, on va dire. Tu peux même être un mix d'animal ou d'être humain. En fait, tu fais ce que tu veux de ton avatar.
Ouais.
Et ensuite, comme dans la vraie vie, il s'agit, parce que ça existe toujours, comme on l'a dit, d'acheter des produits, des vêtements, des maisons, des terrains, de communiquer avec des autres avatars, mais des vrais gens hein, qui sont matérialisés.
Oui,
et tu peux communiquer.
On a les images.
Live.
Enfin, si vous êtes avec nous là en vidéo, on vous diffuse en ce moment des images en fait de Second Life. J'imagine que c'est pas la version 2003, ça non. C'est peut-être des versions un petit peu plus.
Alors j'ai pris la dernière vidéo sortie par Linden Lab, qui est la boîte qui édite Second Life, parce qu'en fait ils ont mis en ligne une vidéo en mars dernier annonçant une appli mobile. Donc on parle de toi tout à l'heure.
Okay.
Et donc ce sont les images les plus récentes. J'ai mis aussi les premières images lors du lancement de Second Life. Alors, j'en parlais tout à l'heure, je m'y suis connecté récemment. Ça n'a quand même pas beaucoup évolué en termes de graphisme. Hein. C'est toujours un peu saccadé malgré les débits beaucoup plus élevés désormais.
La particularité... Et puis la puissance informatique aussi qui a évolué en 20 ans. Hein. Aujourd'hui, on a des bêtes de puissance. Hein,
voilà, ça n'a vraiment rien à voir. En 20 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Est-ce que tu connais la monnaie de Second Life ? Parce qu'il y a une vraie monnaie.
Le Linden Dollar, je me souviens de ça.
Et dès 2004, tu pouvais convertir le Linden Dollar en monnaie, en dollars réels en fait. Et donc, c'est là encore l'ancêtre des crypto-monnaies dont on parle beaucoup aujourd'hui. Mais ça existait déjà. Il était déjà possible de faire fortune parce qu'il y a eu des millionnaires sur Second Life, des gens qui ont fait un vrai business. Ouais. En vendant des trucs.
D'accord,
voilà, des vêtements, des objets virtuels qui permettaient de customiser ses avatars. Donc, l'idée de Second Life, en un mot, il s'agit de reproduire une vie alternative avec tout ce qui est possible de vivre dans la vie. Voire pire, parce que quand j'ai lu tout à l'heure les conditions générales, les mises en garde inhérentes au contenu pour adultes, je peux te dire que ça fait peur, mais j'en dirai un mot juste après.
Oui, il y a eu des dérapages sur Second Life. Et je pense que c'est ce qui a précipité aussi
pas sa chute, parce que c'est toujours, mais
ça baisse intérêt.
Ouais. Donc ça a été lancé en 2003, ça n'a vraiment décollé qu'en 2005.
Ah oui,
d'accord. Aux États-Unis. En 2006, plus encore, au point de faire la une, et c'est là où on en vient aux millionnaires, ça fera la une de Business Week, avec Anshe Yung, Chung. Je ne sais pas si ça te parle, mais on en avait beaucoup parlé à l'époque, parce que c'est l'avatar de la première millionnaire de Second Life. Donc quelqu'un, c'est une personne chinoise qui a fait fortune via Second Life, et elle a quand même fait la une, elle a été baptisée par CNN la Rockefeller de Second Life.
C'est fou ça.
C'est quand même pas anodin. Ouais. Et le titre, c'était Virtual World, Real Money. Donc il y a vraiment un vrai business. Et en 2007, on commence déjà à parler du business de Second Life. On se questionnait sur le modèle économique de ce de cette appli. Et je ne sais pas si tu t'en souviens, mais beaucoup de marques voulaient être présentes sur Second Life.
Bien sûr.
Tu avais American Apparel, IBM, Dell, Lacoste, Jean-Paul Gaultier, Lacoste, Dior, L'Oréal et même la BNP faisaient ses recrutements via, pas tous ces recrutements, mais certains de ces recrutements via Second Life.
Oui, c'est donc l'histoire qui se répète parce qu'aujourd'hui, avec le métaverse, c'est un peu la même chose.
C'est un peu la même chose.
Il y a des marques qui veulent y être, un peu moins peut-être, mais en tout cas, il y a un intérêt.
Alors désormais, elles sont parties, parce qu'il y a beaucoup moins d'intérêt. Mais Reuters avait un envoyé spécial permanent sur Second Life, sur le monde de Second Life, et même les universités de Stanford et d'Harvard, qui sont même parmi les plus prestigieuses au monde, avaient une représentation sur Second Life. Il y avait des casinos qui permettaient de jouer. Alors, ils ont été fermés en juillet 2007 par l'Eden Lab parce que les réglementations entre les différents pays rendaient les choses trop complexes. Et puis, évidemment, se poser la question du blanchiment.
Et oui.
Parce que
oui, tu pouvais mettre de l'argent via un compte offshore ou je ne sais pas quoi.
La provenance. Et ça pouvait poser problème. Est-ce que tu te souviens de la campagne de 2007, la campagne présidentielle?
Alors oui, je m'en souviens.
Parce qu'il y avait des bureaux, en fait.
Oui, oui, oui.
Tous les candidats, quasi tous les candidats
étaient sur Second Life.
De Ségolène Royal à Nicolas Sarkozy à François Bayrou, il fallait être là. Alors c'était du marketing politique parce que c'était que de l'image, mais c'était le truc qu'il fallait faire. En octobre 2017,
c'était un axe de com comme un autre en fait.
Oui, c'est comme aujourd'hui.
Il fallait sur son site web.
Voilà.
Il fallait Emmanuel Macron et son TikTok et son environnement.
Ça faisait partie du chose. Aujourd'hui, on a d'autres outils. Et en 2017, en octobre, il y a 10 millions de résidents sur Second Life, donc c'est quand même un petit pays. Alors, il faut savoir qu'on pouvait avoir plusieurs avatars avec un seul compte, donc ça minore un peu le chiffre, mais bon, c'est quand même assez conséquent. Et je vais te donner un chiffre incroyable. Tu connais l'Institut Gartner,
qui
est connu pour son sérieux.
Pignon sur rue.
Il avait prévu à l'époque, en 2007, qu'à la fin 2011, 80% des internautes auraient une seconde vie dans un univers virtuel.
Aïe, aïe, aïe.
Bon, on est en 2023, mais on n'y est pas.
Le consultant de Gartner qui a écrit ça...
Je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui.
Peut-être qu'il est sur Second Life.
Voilà, peut-être qu'il répare des smartphones,
oui,
on ne sait pas. 2007 sera donc l'année de l'apothéose, mais ce sera aussi l'année du déclin, avec des problématiques financières, notamment des banques qui se sont créées sur le site Second Life et qui ont fait faillite. La plus connue, c'est Ginko Financial, qui a fait faillite parce qu'il pratiquait ce qu'on appelle la pyramide de Ponzi.
Ah oui.
Si tu connais ce principe.
C'est un truc terrible, en fait.
C'est terrible, en fait. Ouais. L'idée, c'est de rémunérer avec de hauts rendements les gens qui investissent sur ces plateformes.
Oui, pour créer une plateforme, en fait, et un attrait.
C'est ça. Et en fait, ce sont les nouveaux entrants qui financent.
Oui, qui payent en fait les...
Et le plus connu de ceux qui ont pratiqué, c'est Bernard Madoff quand même. Oui. Donc on connaît
il y avait ça sur Second Life à l'époque.
Et il y avait ça sur Second Life. Ginko a mis la clé sous la porte, ils ont fait faillite. Désormais, en 2008, Lyndon Abbe a imposé à ce que les banques sur Second Life aient une... correspondre à une banque réelle, en fait. Donc, je suis la BNP, je pourrais une banque sur Second Life parce que j'ai un vrai réseau. Je suis adossé à
des réglementations. Oui, c'est un peu une succursale virtuelle d'une banque traditionnelle.
Et adossé à une réglementation dans la vraie vie. Là, retourne vraiment en 2010. Facebook et les réseaux sociaux sont passés par là. Il y a eu un effet des jeux multijoueurs. World of Warcraft, je ne sais pas si tu es adepte de ce type de jeu, mais ça te prend beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps.
Oui,
on en a
parlé
dans
le podcast. Et ça fait moins de temps à consacrer sur Second Life.
Là,
qui en plus, c'était l'oisiveté Second Life. Hein. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Tu te baladais. Tu rencontrais des gens.
C'est pas un jeu, en fait.
Non, on
a un peu de temps à perdre.
C'est un univers un peu particulier.
Et c'est ce qui est intéressant dans le profil des gens qui utilisent encore Second Life, parce qu'il y a quelques études. On n'a pas full de chiffres sur Second Life. Ils sont assez discrets chez Lyndon Lab, mais on a quelques éléments quand même. Si ce n'est que les entreprises quittent Second Life à partir de 2010 les unes après les autres. Finalement, il n'y a pas de business, ça fait pchit. Hein,
ouais.
Une espèce de, comme la bulle Internet à un moment donné. Lyndon Lab doit se séparer d'un tiers de ses effectifs, donc le vent tourne. Et en 2020, ils avaient un projet qui s'appelait Sensor VR, de réalité virtuelle, qu'ils abandonnent.
Donc, ils
se consacrent désormais au développement de la marque et de l'appli mobile, dont on parlera tout à l'heure. Alors, on l'a dit, Second Life n'est pas mort. J'y suis retourné. Selon une dirigeante dans une interview qu'elle a donnée au journal du Net, l'une des patronnes de Lyndon Lab, il compte 73 millions d'inscrits depuis la création. Donc, ce n'est pas anodin. Il considère qu'il y a 200
millions... Enfin, sur ces 73 millions, il y en a combien qui sont encore présents, quoi.
Voilà, mais ça, on a des chiffres là pour le coup. Il y a 200 000 utilisateurs actifs journaliers. C'est quand même pas rien.
C'est pas anodin.
Une petite grosse ville, je ne sais pas. Et il y a 30 à 50 000 résidents qui seraient connectés simultanément. Et le PIB, écoute-moi bien, est estimé à 650 millions de dollars. Donc, c'est quand même pas anodin.
Ce
sont des sources Lyndon Lab. on ne sait pas dans quelle mesure on peut
on peut les croire sur parole. On peut les croire, ouais.
Mais 650 millions de dollars, c'est un petit pays en voie de développement. Ça peut être un pays d'Afrique, ça peut être... C'est beaucoup plus important que Tuvalu. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce petit État qui a fait fortune en vendant le Point TV.
Tout à fait.
Donc, ce n'est pas complètement anodin à la condition que ce soit avéré. On peut toujours s'abonner à Linden Lab, à Second Life. Ça coûte 6, 12 ou 30 euros par mois. Alors, j'y suis allé. Je me suis inscrit sur la plateforme gratuite, parce que je n'avais pas l'intention de payer, et je me suis retrouvé dans l'univers que je connaissais en 2007, quand je m'étais inscrit. Et je te le disais tout à l'heure, je suis allé sur les mises en garde inhérentes au contenu adulte, parce que ça m'a interpellé. Donc globalement, on y joue aux cartes, on discute, on voit des gens, on y parle beaucoup de sexe, et c'était l'une des particularités à l'époque. Et avant de pouvoir accéder au contenu adulte, ce que je n'ai pas fait, mais je me suis arrêté à la mise en garde. On y parle de violence, de mutilation, de drogue, de scènes de sexe très hard, de zoophilie. En clair, sur Second Life, visiblement, tout semble possible. Et j'ai trouvé ça assez effrayant parce qu'il n'y a pas d'autre modalité de contrôle. C'est un peu la problématique de l'accès aux sites porno aujourd'hui, hein, ce à quoi travaille le gouvernement français. Et j'ai trouvé ça assez effrayant, en fait, de cette seconde vie imaginaire certes, mais qui renvoie quand même des images de violence qui semblent avérées.
Oui, on va dire que voilà, il y a aussi un peu les bas-fonds de notre société qui sont représentés sur Second Life.
Et le pire des bas-fonds, je le crains. Ceci étant dit, le design est quand même très daté, on est très, très 2000. Oui. C'est toujours assez saccadé, le militaire de mon avatar se perd dans les décors. je l'ai retrouvé après. Donc, par rapport à une PS5, par exemple, on est quand même des années-lumière.
C'est clair.
L'ergonomie. Pareil, c'est quand même pas top. Moi, je m'y suis perdu. Hein. Je n'ai pas réussi à retrouver mes petits dans les différents paramètres de...
Mais est-ce que tu as trouvé ça des moments sympas ou est-ce que c'est chiant,
quoi ? Non. Alors, je vais reprendre ton terme. J'avais trouvé ça chiant en 2007. J'ai trouvé ça chiant en 2023.
D'accord.
Et mon temps de cerveau disponible n'est pas suffisant. En 2007, je n'avais pas vu l'intérêt, en fait. Si ce n'est que les gens qui se connectent toujours sur Second Life sont plutôt plus âgés, ils ont mon âge. Mm-hmm. Ce sont des gens qui se sont connectés globalement au début.
Voilà, qui ont peut-être cette nostalgie d'avoir vécu le début d'une aventure, en fait.
Et qui, ils ont constaté, des sociologues ont travaillé dessus, que ce sont des gens qui sont isolés, qui sont sur Second Life. Et qui trouvent des gens à qui parler sur cette plateforme. Ça, ce titre-là, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Ce sont des gens qui, parfois, sont exclus de la société également. On parle de personnes avec des troubles, avec des handicaps, avec des choses comme ça.
Si ça leur permet d'avoir un terrain d'expression, pourquoi pas ?
Voilà, pourquoi pas. Moi, non, j'ai trouvé ça vraiment très ennuyeux. Ça ne m'a pas beaucoup intéressé. Ça ne m'a pas intéressé parce que, tu l'as dit, c'est une forme d'oisiveté. Bon, il me faudrait une finalité pour
ça. Et on a deux, trois trucs à faire.
Et on a quelques trucs à faire.
C'est ça le souci. Tu nous disais que, malgré tout, le projet n'est pas enterré.
Non.
Linden Lab, donc, veut sortir une appli.
Voilà. Ils en ont parlé en mars dernier. Ils n'ont pas donné d'éléments de calendrier. Et ils ont mis sur leur compte YouTube une vidéo présentant ce à quoi pourrait ressembler l'appli Linden Lab. Ils l'ont confié à une boîte hyper sérieuse, dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui fait référence dans le domaine des applis mobiles. On n'a pas de calendrier, effectivement. Voilà, c'est ce que pour ceux qui sont... c'est ce qu'on voit à l'écran pour ceux qui voient la vidéo.
Mais c'est un petit peu plus joli, j'ai l'impression.
Ça va être un peu plus joli. Je pense que la qualité de l'écran, disons, la définition sera d'une qualité supérieure. À voir, à tester. Peut-être qu'on en reparlera. En tout cas, Second Life n'est pas mort. Moi, je ne soupçonnais pas que l'animal était encore vivant.
À ce point. Voilà, il bouge encore.
Il bouge encore.
Voilà, et bientôt, il va bouger sur votre mobile.
Voilà, on sera amené à en reparler, j'imagine.
Mais tu as raison, tu faisais la comparaison avec les Sims. Mais finalement, les Sims, c'est aussi l'ancêtre
c'est
du métavers.
Mais je préfère les Sims.
Ouais.
Je trouvais que l'environnement était plus sympa, c'était plus ludique.
Ouais, tout à fait.
Un peu plus de jeux, il y avait quand même quelque chose à construire.
Exactement.
Je suis plus fan de ça.
Et tu as raison, hein, les Sims 5 est très attendu, hein, ça devrait sortir bientôt, et ça va cartonner, ça c'est certain.
C'est assez probable.
Merci beaucoup Christophe.
Merci beaucoup.
Voilà, on referme ce livre un peu poussiéreux de Second Life, mais c'est toujours très bon de se replonger comme ça dans
l'actu. Les souvenirs.
Voilà, 20 ans. Jour pour jour.
Jour pour jour, 23 juin 2003.
Christophe Joly, donc, tu reviens quand tu veux.
Avec plaisir.
Et ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à réagir, à nous laisser des petits messages avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Portez-vous bien. Et merci d'être fidèle à cette émission. À très vite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.